Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 21 février 2023. Lorsque les marchés US se sont fermés, on le sait, ça n'est pas là que nous vivons les journées les plus passionnantes et les plus sexy. C'est en général des journées qui sont faites pour l'introspection. Chacun fait ce qu'il veut, mais après avoir fait le point sur l'inflation et son interconnexion avec la Fed et la hausse des taux hier, on pouvait largement prendre le temps de se demander si nous n'avons pas déjà été un peu haut, que certaines valeurs sont déjà trop chères et qu'à moins que la Fed baisse les taux à 1% et que le gouvernement US donne une prime exceptionnelle à chaque Américain pour acheter des actions, ça allait être compliqué d'aller chercher un peu plus haut. Autant vous dire qu'hier était une séance pour pas grand chose puisque les marchés européens se sont montrés extrêmement conservateurs en attendant d'en savoir plus. Le DAX reculait de 0,03%, le CAC 40 qui, pour une fois, ne battait pas de record, abandonnait 0,16% et la Suisse était la seule à terminer en hausse de 0,09%. Clairement, pas de quoi se rouler par terre de bonheur et d'excitation. Tout le monde est dans l'attente d'en savoir un peu plus sur la suite des événements. On ne va donc pas revenir sur ce que l'on sait déjà et ce qui est déjà pricé dans le marché. Mais il semblerait que là, tout de suite, nous, les experts en finance et en macroéconomie, sommes en train d'anticiper 3 séries de hausses de 0,25 dans les mois qui viennent. Perso, je m'étais arrêté à 2, mais entre vendredi dernier, les ventes de détail, le fait que le PPI ne baisse pas et que plusieurs présidents de la Fed parlent de monter les taux directement de 0,5%, on a sûrement dû revoir notre copie. Donc, à ce jour, les Fed Funds sont entre 4,5% et 4,75% selon les attentes du marché. Il devrait y avoir une hausse de 0,25% le 22 mars, puis une autre de 0,25% le 3 mai et une dernière le 14 juin. Ensuite, on a l'air de rester convaincu que la Fed va garder ses taux élevés dans la zone des 5,25-5,50 pendant quelques mois avant d'entamer la baisse des taux pour soutenir l'économie qui devrait théoriquement se trouver au bord de la récession avec une grosse envie de faire un pas en avant. Ça, c'est donc le scénario idéal que nous avons en tête, celui qui nous permet d'ailleurs de s'exciter depuis plusieurs semaines sur la thématique de la tech qui devrait profiter de la baisse des taux qui se rapproche un peu plus chaque jour qui passe. On en est donc à anticiper quelque chose qui est aussi prévisible que les chutes de neige à plus de 3 jours pour faire de l'investissement à 12 mois, alors que depuis le Covid, l'investissement long terme se fait en général entre le lundi et le vendredi soir de chaque semaine, ce qui file d'ailleurs de l'urticaire à Warren Buffett. Nous sommes donc dans une conviction profonde comme quoi nous savons exactement ce qui va se passer dans les 12 prochains mois alors que nous sommes faux sur à peu près tout ce qui est macroéconomie et décision de la Fed depuis des mois, si ce n'est des années. Un des stratèges de Morgan Stanley expliquait hier que la hausse irrationnelle des marchés depuis le mois d'octobre, hausse qui a fait monter le S&P 500 de 16% et Tesla de 100%, n'est basée que sur des prospects futurs qui ne sont même pas encore intégrés dans les valorisations. La prime de risque que les investisseurs sont prêts à payer pour acheter des actions aujourd'hui est très élevée, trop élevée, et donc rend la situation très dangereuse. S'il y a le moindre grain de sable dans le scénario que nous avons créé depuis le début de l'année, la question ne sera pas de savoir si nous allons baisser, mais plutôt de savoir quand est-ce que nous allons arrêter de baisser. À l'heure actuelle, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a un vent de bullish attitude qui souffle sur le marché, qui semble vouloir l'empêcher de baisser depuis que l'on a osé imaginer que les taux allaient s'arrêter de monter et que les investisseurs voient le bout du tunnel. Et ça, c'est sans parler de la hausse délirante de certains titres liés à la haute technologie. Un des arguments des bulls réside dans le sens qu'il y a des milliards de dollars dans les portefeuilles qui attendent d'être investis et que ces milliards ont le pouvoir de faire monter tout et n'importe quoi pourvu qu'il y ait un projet d'intelligence artificielle dedans. La conviction des optimistes semble extrêmement forte en ce moment et même si la quasi-totalité des stratèges des banques d'affaires se liguent contre eux, on a l'impression que ça ne suffit pas. Pour le moment. Le camp des bears est un peu plus structuré et apporte des arguments un peu plus fondamentaux que « c'est trop cool la techno quand on baissera les taux ». Mais même si les rapports de tout un chacun est très fouillé et relativement bien réfléchi, la peur de rater le train de la hausse et le nouveau bull market de ces 20 prochaines années, histoire de pouvoir prendre sa retraite avant 70 ans comme le prévoit le Conseil fédéral, ou avant 64 ans comme le prévoit Macron, ou avant 62 ans comme le désire le reste de la France, que les marchés ne baissent pas. Personne ne veut prendre les profits puisque l'on sait exactement où l'on va et que la seule chose qui manque, c'est la date de la première baisse des taux. On n'a donc plus qu'à prier pour que ça fonctionne. Mais toujours est-il que les feux clignotants qui signalent un danger sont en train de clignoter tellement fort que l'on se demande s'il ne va pas falloir changer les batteries prochainement. En effet, les actions sont chères après leur rebond de début d'année et on s'attend à de tellement belles choses qu'il va falloir délivrer et dont l'excès de confiance dans lequel nous sommes, à la moindre déception, la sanction pourrait être terrible. Aujourd'hui, c'est la macro qui prime, tout le monde s'accroche au scénario de baisse des taux à la fin de l'année. Mais au moindre signe que cette éventualité pourrait se transformer en mirage, je crains que l'on ne fasse pas de prisonniers, on tirera d'abord et on posera les questions ensuite. Une des craintes du moment reste tout de même le fait que, potentiellement, l'inflation pourrait s'arrêter de baisser, sans parler du film d'horreur si elle remonte. Aujourd'hui, la Fed est confiante en sa stratégie, et tant mieux, parce qu'en théorie, c'est la seule qui fonctionne. Mais si la réouverture de la Chine provoque de nouvelles tensions inflationnistes, si les hausses des taux n'ont pas d'effet immédiat sur la croissance économique et l'emploi, il n'est pas certain que la Fed attende patiemment que l'inertie des hausses de taux de ces 12 derniers mois fasse effet. Et notre petit scénario de 3 hausses de taux à 0,25 pourrait se volatiliser dans l'atmosphère comme les bulles d'une bouteille de champagne qui serait ouverte depuis trop longtemps. Et puis si l'on veut être totalement objectif en observant les graphiques qui ont été le moteur de la hausse de ces derniers temps, on se rend compte que pas mal de chemin a été parcouru et qu'actuellement nous sommes en phase de pullback. Le truc de bien avec les pullbacks, c'est que ça permet d'acheter moins cher. Le truc de moins bien avec eux, c'est que si ça s'arrête pas sur les supports, ça peut baisser très vite ensuite. Aujourd'hui, nous sommes en mode confiance maximum, donc ça n'est qu'une opportunité d'achat qui se dessine. Cependant, si les minutes de mercredi ne nous plaisent pas et que le PCE de vendredi montre à la Fed que c'est la merde totale au niveau inflation, je ne donne pas cher des supports. Ce matin, je regardais le graphique des semi-conducteurs, le SOX, indice réputé comme indicateur avancé des marchés, et je m'apercevais que la tendance haussière très court terme développée depuis le début janvier avait été cassée, que l'indice avait cessé sa progression en tapant le dernier top du mois d'août dernier et que ça ressemblait furieusement à un double top, et que si c'était un double top, ça n'allait pas être facile de tenir la moyenne mobile des 50 jours qui se trouve à 7% de là. Et puis je me suis rendu compte que Nvidia publiait ses chiffres trimestriels mercredi soir et que le titre était déjà monté de 98% depuis sa dernière publication trimestrielle. Que vont-ils bien pouvoir sortir pour que le titre monte encore ? Mis à part la découverte d'un vaccin contre le cancer et la connerie, je ne vois pas trop. Et aux dernières nouvelles, c'est pas trop là-dessus qu'ils bossent. Quoiqu'à l'heure actuelle, un vaccin contre la connerie, ça serait quand même pas mal qu'on y pense. Bref, tout ça pour vous dire que même si je suis et je reste définitivement bullish sur le long terme, j'ai comme le sentiment que l'on s'accroche à plein de trucs en conditionnel pour monter, alors que tout ce qui se conjugue au présent donne envie de s'ouvrir les veines avec un couteau à beurre. Alors comme disait Josiane Balasco dans Les Bronzés font du ski, j'y vais, mais j'ai peur. Ce matin, l'Asie est dans le même état que moi et se pose des questions sur la suite des événements. Elle se demande « Should I stay or should I go ?» Pour le moment, le Japon baisse de 0,15%, Hong Kong recule de 0,99% et la Chine ne fait rien. Le pétrole est à 76,55 et est angoissé par ce que pourrait dire ou faire la Fed. Toutes les excuses sont bonnes pour expliquer la baisse. Et quant à l'or, il est à 1847$ et le Bitcoin est à 24 900 et des poussières et a déjà cassé les 25 000$ cette nuit. Si on en croit la prédiction comme quoi le Bitcoin va à 250 000$ à la fin de l'année, si vous achetez maintenant, vous multipliez votre capital par 10 d'ici le 31 décembre à minuit. Dans les nouvelles du jour, on apprend que lorsque l'on cumule les positions de BlackRock, State Street et Vanguard, les plus gros fabricants d'ETF, ils détiennent plus d'actions Tesla à E3 qu'Elon Musk lui-même. Alors je ne sais pas ce qu'il faut faire de cette nouvelle, mais les complotistes diront que la manipulation est en route, et les autres diront qu'il y a de plus en plus de demandes sur les ETF, peut-être trop, et que Tesla est dans beaucoup d'indices, ceci expliquant cela. En gros, ça ne sert pas à grand-chose de le savoir, mais vous pourrez toujours leur sortir à l'apéro de jeudi soir, ça fait souvent briller en société ce genre de remarques. Il y a aussi le milliardaire britannique Jim Ratcliffe qui est en train de se bagarrer avec les Qataris pour racheter Manchester United, et si c'est les Qataris qui gagnent, pas sûr que le PSG continue d'encaisser des milliards pour gagner la Ligue 1 chaque année. Et le nouveau slogan du PSG sera probablement ici, c'est fini. Dans les autres nouvelles, il y a Ray Dalio, le hedge fund manager qui pèse déjà 19 milliards, qui va toucher encore plusieurs milliards parce qu'il prend sa retraite et s'engage à ne pas se battre pour garder une partie de Bridgewater, sa société. Personnellement, pour un seul milliard, je ne dérange plus jamais personne. Pendant ce temps-là, Biden a fait une visite surprise en Ukraine pour réitérer son intention de soutenir l'Ukraine et de leur donner encore plein d'argent. Alors ça, c'est purement superbe. La dette de son pays est en train d'imploser. Ils n'ont toujours pas trouvé de solution pour le plafond de la dette. Mais l'autre clown voyage à travers la planète pour faire la guerre et dilapider le pognon qu'il a pas. C'est tout simplement magistral. Pendant que Biden se prend pour un soldat, les tensions avec la Chine continuent d'augmenter, alors que les Américains ne veulent pas qu'ils livrent d'armes à la Russie, et qu'un autre clown de l'Union européenne a déclaré que de telles livraisons à la Russie marqueraient une ligne rouge. Les Chinois doivent vraiment être terrorisés par les menaces à peine voilées de l'Europe. Autrement, il y a les ministres des Finances du G7 qui vont se rencontrer après-demain pour discuter des mesures de rétorsion économique à prendre contre la Russie. Alors si c'est le maire qui fait des propositions, on est foutu. La dernière fois qu'il a voulu mettre l'économie et la Russie à genoux, l'essence est montée de 50 centimes. Plus sérieusement, on notera aussi qu'HSBC a publié ses résultats trimestriels qui étaient meilleurs que les attentes, même avec une taupe de 300 millions sur la Russie. Côté chiffres du jour, avant l'ouverture, il y aura deux poids lourds du Dow Jones qui publieront leurs chiffres du trimestre, Walmart et Home Depot, chiffres qui seront intéressants à décortiquer, histoire de voir comment le consommateur consomme ou pas. Autrement, il y aura le trade balance en Suisse, les ventes de voitures en Allemagne et en France, puis plein de PMIs en France, en Allemagne et dans toute l'Europe, tout comme aux États-Unis. Et puis, il y aura le ZEW en Allemagne et en Europe. Pour le moment, les futurs sont en légère baisse et jusque-là, je dis bien, tout va bien. Je vous souhaite une excellente journée et à demain. Enfin, si vous le voulez bien.